Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
C'est une disposition prévue par la loi du 6 juillet 1989 relative aux troubles de jouissance qui exige des bailleurs qu'ils garantissent à leurs locataires une certaine paix et que les agissements des voisins n'excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage. Les bailleurs peuvent donc demander l'expulsion des familles pour manquement à l'obligation de se comporter, je cite, en bon père de famille et d'user paisiblement de la chose louée conformément à sa destination. Fin de citation. On imagine bien que ces notions sont sujettes à interprétation. La machine à laver le linge qui tourne à minuit est-elle un inconvénient normal du voisinage? Le bruit des fêtards du dessous entrave-t-il la paix? Si les troubles du voisinage liés au bruit sont mesurables en décibels, ceux liés aux activités et à la bonne moralité des voisins sont évidemment plus obscurs. Parfois même, explique Le Parisien, les bailleurs convoquent une jurisprudence datant d'octobre 2013 qui permet d'expulser toute une famille si le signataire du bail est tenu responsable des infractions commises par ses propres enfants. Dans l'histoire que nous racontons aujourd'hui, le problème, c'est que les faits sur lesquels reposent ces expulsions ne sont pas très clairs. Le trouble de jouissance qui justifie l'expulsion est au minimum ambigu et au pire un motif abusif. Une famille entière est ainsi expulsée manu militari pour des délits supposés commis par l'un de ses membres seul et qui plus est majeur. Double peine. Non seulement ton fils ou ton frère est un dealer de crack, récidiviste ou pas, mais tu dois payer pour lui. Ensuite, les faits pour lesquels il replonge, après avoir purgé sa peine, ne sont pas nets, au mieux, au pire, tout à fait contestables. Triple peine. Enfin, avec le temps que prend la procédure, la famille se retrouve expulsée à un moment où le fils n'habite plus dans l'appartement. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Jackpot. Tout de suite donc, comment un dealer le sera toute sa vie et comment il condamne du même coup tout son entourage. Une histoire racontée par trois générations, la sœur Marianne, le père Mamadou et le soi-disant coupable, qu'il a été d'ailleurs, Mohamed. Un récit qui ne vise en aucun cas, je le précise, à le dédouaner des faits qu'il a commis, ni à minimiser leur gravité, mais à pointer les dérives possibles de ces procédures d'expulsion. Un récit conduit par Olivia Muller.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Marianne, j'ai 27 ans. Je suis éducatrice spécialisée à Paris. Je suis issue d'une fratrie de 6 enfants. Moi, j'occupe la place d'avant-dernière. J'ai 3 frères et 2 sœurs. J'ai ma petite sœur qui est décédée en 2009 suite à un accident de voiture quand on était en vacances au Mali. Et le jour où on devait rentrer à Paris, on partait pour faire les dernières courses au marché. Et elle s'est fait renverser devant moi. Alors ma petite sœur est décédée à l'âge de 13 ans. Moi j'avais 17 ans à ce moment-là. Du coup c'est moi qui a couru, qui a vu, qui a pris le pouls et qui a compris que voilà, c'était fini pour elle. Moi j'ai pris la place de dernière du coup. Donc j'ai eu une sorte de perte d'identité pendant une période. Ça a été vraiment difficile parce que je me suis retrouvée de grande sœur à petite sœur tout court. C'était la première grosse épreuve dans notre famille. Juste après, j'aurais dit que l'expulsion, la douleur que j'ai ressentie pendant l'expulsion, elle est comparable à celle du décès de ma petite sœur. Tellement ça a été violent.
Je suis originaire du Mali. Je suis arrivé le 18 mars 1974. J'ai toujours habité à Paris, travaillé à Paris. J'étais charcutier. Vous savez, quand on arrive, on prend ce qui nous tombe dans la main. Non, mais on ne faisait pas que des porcs, il y avait autre chose. Ouais. Et un an après, j'ai fait venir ma femme. J'ai eu 6 enfants, sans histoire, sans problème, jusqu'à ces derniers temps. J'ai joué mon rôle de père. Avec les peu de moyens que j'avais, bien sûr, je me levais à 4h30, 5h tous les jours. Je ne rentre pas avant 17h30 et 18h, du lundi au vendredi. pendant 32 ans. Tout pour ma famille. J'essaie de leur donner ce qu'on m'a donné. Le respect de soi et le respect des autres, parce que c'est fondamental.
Je me prénomme Mohamed, j'ai 34 ans et j'ai grandi dans le 19e arrondissement et aujourd'hui je suis animateur socioculturel dans le 18e. Mon enfance a vraiment été une belle enfance, sans gros problèmes. Ben, le fait d'habiter dans un logement social quand on est petit, on ne s'en rend pas compte et tout. J'ai toujours eu un très bon rapport avec mes parents. Après, dans ma famille, j'ai jamais été vraiment quelqu'un qui était là. Par exemple, chez moi, ils étaient tous dans le salon et moi, j'ai toujours été un peu le loup solitaire. Je sais pas pourquoi, en fait. Ça a toujours été comme ça et j'ai jamais changé. L'école n'était pas dure, mais je m'ennuyais à l'école. Après, bon, j'ai pas continué après. Je suis allé dans le monde du travail. J'ai même été livreur de pizza avant d'être démarcheur commercial. Et après ça, ben, pendant environ 6 mois, je travaillais pas. Et je voulais pas compter sur l'argent de poche de mes parents. Et il me fallait de l'argent parce que, à un moment, on a un manque d'argent. Surtout quand on arrive à 18 ans, 19 ans. Et du coup, moi, je restais beaucoup avec mes amis qui, eux, dealaient. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivé à moi aussi entrer dans le monde du deal. On dealait ce qu'on appelle le crack. Comment ça se fait petit à petit? Je pourrais pas vous dire qu'il y a une méthode. Mes amis et moi, on a décidé de dealer du crack parce que on traînait beaucoup à Stalingrad. Et à Stalingrad, il y avait beaucoup de Sénégalais qui dealaient du crack. Et nous, on restait avec eux. Et en fait, eux, quand ils dealaient, ils nous donnaient leur argent pour qu'on le garde au cas où ils se fassent interpeller par la police. Du coup, on voyait qu'ils se faisaient vraiment beaucoup d'argent. Quand on m'a proposé de dealer, on m'a proposé soit le crack, soit le cannabis. Moi, j'ai demandé le rapport qualité-prix. Et on m'a dit qu'avec le cannabis, par exemple, si tu investis 200 euros dans du cannabis, tu te fais 400 euros. Alors que dans du crack, tu investis 200 euros, tu te fais 700 à 800 euros. Donc, sans vraiment connaître les échelles des drogues, à l'époque, je les connaissais pas. En voyant ça, ben, nous aussi, on s'est mis à dealer après. Après, je peux pas vous dire que je savais pas ce que c'était, parce que on voyait les toxicomanes qui venaient prendre leur drogue. On en voyait qui avait l'air en bonne santé, en forme et tout. Et on en voyait d'autres qui vraiment, eux, par contre, ça se voyait que leur santé se dégradait. Ça, après, je l'ai su plus tard, mais le crack, c'est une drogue dure et c'est une drogue qui crée une grande dépendance. J'ai connu une personne qui était, à l'époque, elle était avocate. Au bout de 4 ou 5 mois, si je me trompe pas, elle avait été virée du barreau de Paris, elle était plus avocate et tout. La personne s'était retrouvée à la rue et tout. Le rapport avec mes clients, il a toujours été très bon. À mes amis, je leur disais toujours, parce qu'il y en avait certains qui ne les respectaient pas trop, moi je leur disais, écoute, c'est eux qui te ramènent ton argent. Et moi, j'ai vraiment eu des très bons rapports avec mes clients. D'ailleurs, on m'a même invité à des fiançailles, mais je n'y suis pas allé. Pourquoi ? C'était pas de la timidité, mais je pense que je me disais, non, je peux pas aller aux fiançailles de quelqu'un à qui je vends de la drogue. Ça n'allait pas ensemble, en fait. Un moment heureux et le crack, ça a été une erreur de jeunesse. Je ne veux pas dire que je regrette parce que je l'ai fait. Et ce serait... Mon grand frère, il me dit toujours, si tu ne veux pas regretter quelque chose, ne le fais pas. Il n'a pas tort d'un côté. Mais si c'était à refaire et que j'ai les infos que j'ai aujourd'hui, je ne l'aurais pas refait. Et je pouvais acheter des jeans à 300 euros. On n'avait pas besoin d'autant d'argent. C'est aussi une forme de frime et on était vraiment une vraie bande de frimeurs. Comment expliquer? Moi, par exemple, à un moment, j'avais fait des économies. Je les avais cachées chez mes parents. Et un jour, ils ont disparu. Et je sais pas qui les a pris. Il y avait quasiment 30 000 euros. Je les ai pas vraiment cherchés parce que d'un côté, je m'en foutais de cet argent. Parce que je savais que c'était de l'argent du deal et je me suis dit, de toute façon, il n'est pas là. C'est pas grave. Je me suis dit, tant pis. 30 000 euros, ça peut paraître beaucoup, mais c'est sur quasiment 3 ans de deal. Si j'avais dealé sérieusement, à l'époque, le prix auquel était le crack, à l'époque, 30 000 euros de côté, je pouvais les faire en 2-3 mois. Mais ça ne m'intéressait pas.
Aucun soupçon. Ok. C'est ça qui m'a tué. Il ne nous parle pas. Et comment voulez-vous qu'on le chasse? On ne peut pas. Hein? S'il nous parlait, on aurait pu prendre des mesures. Mais il disait rien. C'est un garçon qui est naïf. Il croit tout ce qu'on dit. Mauvaise fréquentation, voilà. Parce que s'il faisait des fortunes, on aurait senti, on aurait vu. S'il profitait, mais je suis sûr qu'il n'a même pas tiré un profit. Hein? Je dis, même pas de belles chaussures.
Moi, personnellement, c'était l'envie d'argent rapide et facile. C'était surtout le fait d'être avec mes amis. On faisait partie du même groupe, on dealait la même chose et donc on était ensemble toute la journée. C'était vraiment ambiance bon enfant, ça se taquinait, ça rigolait. Je dormais soit à l'hôtel, soit chez des potes. On était 7 ou 8, on dealait une chambre d'hôtel, c'était quoi? C'était à l'époque, c'était 40 euros, je crois. 4 personnes qui mettaient 10 euros, ou même à 8, on mettait 5 euros chacun, on avait la chambre. On avait toujours notre PlayStation et on passait plus la nuit à jouer qu'à dormir. Le trafic s'est arrêté au moment de mon incarcération. Je me suis fait attraper par la police. J'étais dénoncé par quelqu'un qui trafiquait du crack et qui s'est fait arrêter. Ensuite, j'ai été placé en mandat de dépôt pendant 6 mois, de juin à décembre. Et ensuite, ils m'ont condamné à 3 ans de prison, 3 ans ferme. Et les 29 mois de prison, contrairement à ce que beaucoup de personnes pourraient penser, moi, ça m'a beaucoup aidé personnellement. Ça m'a aidé parce que quand j'étais en prison, c'est là que j'ai pris plaisir à la lecture. Je lisais tout ce que je pouvais lire. Oscar Wilde, j'ai lu tous les Harry Potter. Et j'avais toujours un dictionnaire avec moi. Quand il y avait un mot que je ne connaissais pas, je regardais la définition dans le dictionnaire et tout. J'aurais dû m'y prendre plus tôt, mais bon, mieux vaut tard que jamais.
Moi, j'étais que deux fois, c'était dur.
En prison?
En prison, oui. J'étais là, à rendre visite que deux fois, c'est dur. Parce que j'ai jamais été voir quelqu'un en prison. Puis, conditions de vie là-bas, ça, on n'en parlait pas. Sa mère et sa sœur, ils partaient régulièrement. Ils lavaient les linges, ils amenaient, ils ramenaient. Bon. Mais moi, j'étais que deux fois. Parce que pour moi, c'était pas vivable.
Pas vivable?
Non.
Quand je suis sorti, j'ai arrêté le trafic. Depuis, j'ai pas repris. Le deal, il est vraiment loin derrière moi. Et à partir de là, j'étais en colocation avec un cousin à moi. Des fois, j'allais dormir chez mes parents, mais c'était vraiment plus le samedi, dimanche qu'en semaine. Et un lundi matin, j'attendais que mon réveil sonne pour me lever et partir à ma formation de gardien d'immeuble. Et il y a eu une perquisition. Et là, les policiers me disent « Ouais, tu sais pourquoi on est là ?» J'ai dit « Non, pas du tout cette fois. » Ils me disent « Ouais, c'est pour le trafic de crack qu'il y a dans la rue dans laquelle tu habites et tout. » C'était un nouveau trafic. Et ils m'ont dit « On va chez toutes les personnes qui ont des antécédents de crack. » Personnellement, j'avais rien à me reprocher, donc j'étais serein. Quand on a été déféré au 36 quai des Orfèvres, je crois on était 30 personnes, je crois, au total. Au moment où mon audition, elle commence, le policier me dit, c'est simple, je vais te présenter un classeur et tu dois me dire si tu connais les personnes qui sont en photo ou pas. Et avant même qu'il ouvre le classeur, je lui ai dit clairement, je lui ai dit, monsieur l'agent, ouvrez pas le classeur, je connais tout le monde. Je connaissais tout le monde, c'est le quartier dans lequel j'ai grandi. Et après, ils m'ont dit, ouais, toi, on n'a rien contre toi, juste qu'un jour, on t'a vu rentrer dans l'immeuble et que après, t'es ressorti et on sait pas ce que t'as fait, non. Et pendant le jugement, moi, je suis passé en dernier. Et ce qui m'a beaucoup énervé, c'est que la procureure, elle a posé des questions à tout le monde. Et quand moi, je suis passé, elle m'a posé aucune question. Alors que j'attendais que ça, parce que moi, je savais que j'avais rien à me reprocher. Le juge, il m'a dit, mais pourquoi, si vous savez qu'il y a un trafic, vous restez là? Je dis, mais j'ai grandi avec ces personnes. Peu importe ce qu'elles font, moi, quand je les vois, je leur parle. C'est mes amis. Je pense que ça aussi, ça n'a pas été bien vu. Parce que même mon avocate, elle m'a dit, t'aurais pas dû dire ça. Je lui dis, mais c'est la vérité. On se connaît depuis qu'on est tout petit.
France Culture, les pieds sur terre.
Un jour, en 2014, on entend la porte qui frappe très fort. Donc moi, je bondis de mon lit, vraiment, c'est... J'entends boum, boum, 6h du matin, et j'entends police. Oh, je comprends rien du tout, donc je saute de mon lit et je vois un homme armé qui rentre dans ma chambre. Donc moi, je lève les mains tout de suite, je sais même pas ce qui se passe, j'ai l'impression d'être dans un film en fait. Je lève les mains et j'ai mon cœur qui va sortir par ma bouche tellement il sort fort. Il tape fort parce que je vois un homme armé devant moi. Et en fait, la police qui voulait aller dans la chambre de mon frère soit allée dans la chambre de mon père. Et en fait, ils ont sauté sur mon père, ils lui ont mis les menottes. Mon père qui a 70 ans. C'est ultra violent, ils sont insultants. Moi, je me suis fait insulter de connasse. On m'a tiré les cheveux. Il y a à un moment donné, ils étaient dans le salon. Donc, ils sont en train de dire à mon père, ben voilà, vous avez un fils qui est dealer. Et je voyais mon père trembler avec les menottes. Je leur ai demandé s'ils peuvent retirer les menottes à mon père, vu qu'ils avaient justement pris mon frère. Ils lui ont retiré. Mon père s'est mis à pleurer en disant, moi, j'ai 70 ans. J'ai jamais été dans un commissariat de ma vie. Et ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal pour lui. Donc ils ont fouillé des endroits de la maison, des endroits d'après eux stratégiques. Il y a eu 80 interpellations. Ils sont venus avec les caméras ce jour-là, le jour de la perquisition, et avec les chiens, parce qu'ils pensaient que chez nous, on gardait donc de l'argent ou de la drogue, sauf qu'ils n'ont rien trouvé. Donc suite à la perquisition, mon frère a été emmené au commissariat de police, où il a fait 72 heures. Waouh, ça a été très violent, parce que quand il est sorti... Je lui ai demandé d'aller voir les parents, parce que nous, on a passé les 72 heures à ranger la maison. Et je lui ai dit, va expliquer aux parents ce qui s'est passé, pourquoi ils sont venus, nous, on sait pas. Oh là là, on me casse pas la tête, j'ai rien fait. Et là, j'ai pété un câble. Je lui ai dit, comment t'as rien fait? Bah justement, tu vas leur expliquer. Ils savent rien, va leur dire dans ce cas-là que t'as rien fait. Va leur expliquer pourquoi ils sont venus, qu'ils se sont trompés de personne ou pas. Qu'est-ce qui va se passer après? Explique-leur. Donc, il m'a écouté.
Et j'ai fait 10 mois de prison et au bout de 10 mois, je suis sorti en aménagement de peine. Non, là, vraiment, j'avais rien fait. Ils ont fait une surveillance de 6 mois. Sur 6 mois, ils m'ont vu pendant une soirée. Et ça a été suffisant pour eux pour dire que je faisais partie du trafic. Mais moi, ce que je me dis personnellement, c'est que je paye pour mes conneries d'avant. Quand on n'a rien fait, 10 mois, c'est quand même long. Vu que j'ai été condamné, mes parents aussi ont été condamnés à travers moi. Parce que c'est eux qui se sont fait expulser. Quand j'ai appris qu'ils allaient être expulsés, j'ai ressenti de la colère et de la tristesse aussi. Parce que là, ils ont condamné mes parents. Et d'ailleurs, j'en ai parlé avec ma soeur. Elle m'a dit, ouais, mais c'est ta faute. Je dis, c'est pas de ma faute. Je dis, j'ai rien à voir dans cette histoire. Après, elle m'a dit, ouais, mais ce que t'as fait avant. Je dis, mais ce que j'ai fait avant, je l'ai fait avant. Parce que si on m'avait jugé sur les faits, j'aurais été relaxé. Clairement.
Quelques temps après, on a reçu un courrier qui expliquait que notre bailleur, qui était RIVP, qui portait plainte contre nous pour trouble de jouissance et qui demandait une expulsion du logement car on perturbait l'équilibre du quartier et que mes parents, qui étaient tutélaires du bail, n'avaient pas agi en bon père de famille. Ça, c'était juste après, c'était peut-être 15-5 mois après la perquisition. Alors, on a reçu ce courrier-là en 2014, le premier courrier, et on a été expulsé en 2018. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à monter le dossier en parallèle avec mes cours. Donc j'ai décidé d'écrire au maire du 19e, au maire de Paris et au préfet de Paris. Alors dans ce dossier, il y a une longue lettre qui explique les faits. D'abord, je parle de moi, donc j'explique que je suis une jeune citoyenne de 26 ans, que je vis avec mes parents qui sont porteurs de handicap et que on est menacé d'expulsion, donc pour trouble de jouissance. C'est violent ce que je vais dire, mais pour moi, une expulsion, c'est un viol. Ils nous dépouillent de notre dignité. Se faire expulser, c'est honteux. Moi, j'ai perdu des dizaines de kilos. J'ai développé un trouble qui s'appelle le trouble de la dépersonnalisation. J'ai perdu des amis. Enfin, voilà, c'est... Alors, pendant tout ce temps, on savait pas trop si on allait être expulsé ou pas, en fait. On n'a même pas de solution de relogement. Ma mère est au chômage, mon père est au Mali. Moi, je suis en train de passer mes examens d'éducatrice spécialisée. On n'a aucun revenu. Comment ? Je me dis, c'est impossible. C'est pas possible, ils vont pas nous mettre dehors. Et je dormais paisiblement quand la police a tapé à 6h du matin, le mardi 23 mai 2018. Je me suis effondrée physiquement par terre et j'ai pleuré. Je disais, c'est pas possible, vous pouvez pas nous mettre dehors, on va aller où ? Et j'ai un policier qui me regardait dans les yeux, qui m'a dit, je suis désolée. Et moi, j'étais en pleurs et ma mère, elle était en état de choc, assise, elle n'arrivait même pas à parler. Et on était toutes seules, mes frères et sœurs étaient dans leur domicile. Et il fallait sortir de chez nous. Et je sais que quand on est sorti, ma mère s'est retournée physiquement et elle a regardé la maison une dernière fois. Et elle me disait, non, c'est rien. Elle essayait de sourire, mais je voyais que c'était faux. Et elle me disait, c'est rien. Dieu est grand. Et le pire, c'est quand il y a un policier qui dit, bah, c'était prévu de nettoyer au Karcher. Waouh. C'était pour nous. Et à ce moment-là, en fait, c'est une grande injustice parce que mon frère, à cause de qui on a été expulsé, vit paisiblement dans son appart avec sa nana. Et nous, on est en train de se faire expulser. Nous qui avons rien fait. Je comprends pas. Comment l'État accepte ce genre de décision, en fait. Je sais, mais je comprends pas. Dès qu'on est sorti du logement, on a l'huissier qui est présente. Elle nous donne un document en nous disant, voilà, vous pouvez vous rendre à telle adresse. Ils vont vous trouver un hôtel. Alors c'est complètement contradictoire. Vous nous expulsez pour après nous jeter dans un système d'aide sociale, en fait, qui est déjà rempli, qui est déjà surpeuplé. Pourquoi vous ne laissez pas dans notre logement et on se trouve une solution ensemble? Et à ce moment-là, en fait, quand la police reste là pour éviter des débordements, je lève les yeux et je vois les voisins qui regardent par la fenêtre. Et j'entends des gens qui nous disent « force, force », enfin voilà, qui nous disent « bon courage, vous voulez vous monter à la maison ?» Et à ce moment-là, moi, personnellement, je suis prise d'un fou rire, mais je pleure en même temps. Donc, et j'ai mon amie d'enfance qui, elle aussi, se fait expulser et qui me dit « mais t'es complètement folle » et qui se met à rigoler avec moi.
On a payé pour les autres. J'ai mis tout le monde dans le même sac. Tout le monde est expulsé. Ouais. Pour moi, c'est injuste. Condamner la personne, d'accord, mais condamner toute la famille à cause d'un enfant, et pour moi, c'est un tort. Expulsion, c'est la signification de détruire la famille. Mais pour des conneries pareilles. On n'a pas le pouvoir, on n'a pas le choix, on ne peut pas attaquer contre l'État. Donc, oui, j'étais en colère, oui. Ça m'a déçu.
Il faut savoir qu'une expulsion, en fait, ça touche pas seulement les personnes expulsées, ça touche tout l'entourage. Mon frère a dû divorcer pendant cette année-là, donc on a été hébergés chez lui, et le fait qu'on soit chez lui a causé des difficultés avec son épouse, et ils ont divorcé. Un autre grand frère, qui a son logement, qui a sa femme et son fils. C'est une vraie bombe nucléaire, ça pète entre tout le monde, un bordel, et en fait je pense qu'on a tous mis notre vie entre parenthèses à ce moment-là. Ma mère a perdu énormément de poids, elle a été hospitalisée 2 fois, à cause de son hypertension artérielle qui a monté, du coup. Elle a développé du diabète entre-temps. Enfin, c'était... C'est ouf parce que, en fait, je suis devenue SDF. Waouh, c'est... Je sais pas si c'est le karma, je sais pas si c'est la vie. La vie, c'est un truc de malade, quoi. J'ai fait des études pour aider les personnes dans la précarité. Je me retrouve dans une précarité atroce. J'ai des ressources. J'ai un boulot. Je peux prétendre à un logement, mais... Mon nom de famille me l'interdit. Enfin, aucun bailleur ne voulait de nous, en fait. On était les personnes à éviter. Il y a un élu au niveau de la mairie du 19e et qui a été touché un petit peu par mon combat. Et il a décidé de m'aider. Donc, il a réussi à me positionner sur un logement donc, que la ville proposait dans la banlieue proche. Et on visite. Waouh! On a vu ce logement tout neuf, tout blanc, super bien agencé, super grand. On a été 33 ans au rez-de-chaussée, là on était au 6e étage, lumineux, propre. Waouh! On s'est dit non, c'est celui-ci. Du coup, avec mes revenus, c'était bon. Et on reçoit un courrier qui nous dit qu'on a le logement. Et là, c'est une nouvelle page qui s'ouvre en fait. Aujourd'hui, je sais pas si j'ai encore de la colère envers mon frère, mais en tout cas, La déception est à la hauteur de l'amour que je portais pour lui. Et je pense qu'en fait, je me suis sentie trahie, en fait. Je sais pas s'il doit me demander pardon, mais en tout cas, qu'on en parle, je pense que ça va changer beaucoup de choses déjà. Ouais.
Même si je leur ai pas dit que je me sentais coupable, je me sentais coupable quand même. Avec la fratrie, c'est bizarre en fait. Parce que ma petite sœur, elle, pour elle, j'étais coupable. Les autres, ça variait. Comme ça variait, je me suis dit, bon, pour éviter qu'eux s'embrouillent entre eux, moi, je vais m'écarter. On n'en a jamais reparlé pour l'instant. Pour l'instant, je me suis jamais excusé. Entendre mes parents me dire que non, c'est pas de ta faute, ça m'a fait reprendre un peu confiance en moi et oui, on peut avoir honte, bien évidemment. Et jamais dit je t'aime à mes parents. Pourtant, je les aime, mais je sais pas, c'est de l'ego ou c'est de la timidité ou je sais pas ce que c'est, mais j'arrive pas à leur dire. J'aimerais bien. Et après aussi, si on n'avait pas perdu ma petite sœur, je sais pas s'ils auraient réagi pareil. Je sais pas. Je leur ai jamais demandé, je leur demanderai certainement jamais. Et d'un côté, j'ai pas envie de savoir.
Malgré, c'est ce qu'il a fait, mais je l'aime. Parmi les autres fils, j'aime mon fils. Et je suis son père. Il trouvera nulle part un autre père. Mais je sais qu'il a beaucoup regretté. La façon qu'il me regarde, c'est pas comme les autres. Donc il y a un petit quelque chose. Un petit mur. On essaie de casser ce mur. C'est ce que j'espère qu'on va la casser et puis oublier. C'est à lui d'oublier. Le passé, c'est passé. Faut regarder à l'avenir.
I did not become someone different that I did not want to be. But I'm new here. Will you show me around? No matter how far wrong you've gone, you can always turn around. Met a woman in a bar. Told her I was hard to get to know, and near about impossible to forget. She said I had an ego on me, size of Texas. Well, I'm new here, and I forget. Does that mean big?